acteurs du développement. Venez à la rencontre des personnalités marquantes de votre département. Une émission présentée par Véronique Boularan.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'entretien avec M. Mohamed Saadallah, président de la PEAI Adar. Alors, vous nous avez précédemment présenté donc la structure actuelle de cette association, en parlant un peu du pourquoi, du comment et de ses enjeux. J'aimerais bien maintenant que vous nous évoquiez un petit peu vos actions, quelques-unes de vos actions vu l'étendue du sujet et peut-être aussi quelques projets.
Alors, nous menons à la PEAI Adar beaucoup d'actions parce que on n'oublie pas que nous avons une responsabilité environnementale et sociétale. Nous faisons, je dis comme tout à l'heure, nous sommes data une entreprise intermédiaire, plus de 300 salariés. Donc, nous avons travaillé et arrêté une RSO qui est un peu l'équivalent de la RSE pour les entreprises.
D'accord.
Donc, on partage des valeurs à travers cette démarche de RSO qui rentre dans les engagements de l'ONU pour la préservation du climat. Donc, nous prenons dans ce cadre-là de la RSO. On est les seuls. Avoir réfléchir là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui est issu aussi de cette fusion entre la PEAI et Adar, c'est de permettre d'avoir plus de monde à réfléchir sur le portage d'actions communes. La RSO en fait partie. Exemple, c'est...
Que j'allais vous demander un exemple concret.
C'est de mettre en œuvre dans les ESAT. On a un restaurant d'entreprise à L'Aiguille et puis on a une cuisine centrale à Cambes. C'est de répondre aux demandes du projet alimentaire de territoire sur les circuits courts. Sur la gestion des déchets. C'est également concernant les personnes qui vont au domicile dans le cadre de l'aide de soins à domicile et autres, pour les personnes en perte d'autonomie, tout l'accompagnement qu'on fait au domicile. C'est acheter des voitures électriques.
Par exemple, voilà.
C'est tout ça que nous menons à travers cette démarche RSO sur laquelle nous sommes engagés.
Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de connexions avec les actions territoriales, puisque vous venez de faire part du projet alimentaire du territoire.
Mais bien sûr, on ne peut pas penser qu'une association de cette importance puisse être déconnectée de la réalité du territoire et des rapports qu'elle peut avoir avec les acteurs du territoire, au premier lieu les élus du territoire, le maire de Figeac, le président du Grand Figeac, et puis le conseil départemental.
Voilà,
donc, nous sommes à travailler de concert avec les différentes autorités, puisque nous souhaitons, comme eux, que nous puissions aller dans ce sens de commun de tous sur la préservation de notre environnement et la sécurité de nos agents et des personnes qu'on suit. Globalement, j'ai oublié de vous dire, on suit 400 personnes sur le champ du handicap et 800 à peu près sur le champ de la perte d'autonomie. Ça fait 1200 familles, vous voyez. Et à travers la démarche des réseaux, c'est les messages que nous faisons passer, c'est les valeurs que nous défendons pour que demain, on essaye de vivre dans une société plus apaisée et plus... plus saine au regard de l'environnement.
Donc là, déjà, c'est une action assez conséquente.
Voilà. Autre action que nous portons, qui est un peu le fer de lance, qui est issue de cette réflexion de la fusion entre les deux associations, c'est le dispositif EREA.
EREA.
Alors, EREA, on a travaillé sur la mise en place d'équipes à responsabilité limitée, sa responsabilité élargie pour l'autonomie. C'est quoi en fait ? C'est on a changé de paradigme concernant l'accompagnement au domicile et donc le maintien au domicile des personnes, qu'elles soient handicapées ou en perte d'autonomie. Donc c'est quoi ? C'est avant tout c'est de penser de faire une façon de penser de faire. Qui replace l'humain
au centre de votre action
et au centre du fonctionnement de nos services. L'humain, c'est quoi ? C'est de se dire, on a une personne à domicile, cette personne va être traitée par plusieurs services.
D'accord.
Ces services travaillent en silo. Vous parliez tout à l'heure de... Le travail sur les formations, les statuts de
bien sûr.
Et donc ces services travaillent en silo. Voilà, donc on a du personnel qui vont au même domicile, ils se croisent, mais ils se parlent pas. Et puis quand l'un dit ça serait bien de faire ça, il faut ça remonte à sa hiérarchie,
pour que l'autre
parle de l'autre, et puis ça redescend après. Perte de temps et tout ça. Donc l'idée, c'est de dire on a 4-5 services qui interviennent au domicile d'une personne, on va mettre en place une équipe de 10 personnes maximum sur un territoire bien défini. Cette équipe, elle aura un animateur qui est le seul interlocuteur de la personne.
D'accord.
Accompagnée.
Ok.
Les familles qui, au préalable, coordonnaient...
Oui, les différents
corps de métier intervenant auprès de leurs parents, ils n'auront plus qu'un seul coup de fil à donner. Et d'ailleurs, c'est l'équipe elle-même
qui va se mettre en lien avec la famille.
Qui va proposer à la famille. Mm-hmm. C'est plus la famille qui dit. C'est cette équipe qui discute régulièrement sur la situation de la personne accompagnée qui prend des initiatives, qui propose aux familles, et on change totalement de paradigme.
D'accord, ok. Ouais. Ah. Il y a une prise en charge bien différente.
Et ça, vraiment, c'est une innovation sociale très importante, sur laquelle nous comptons beaucoup et que l'on développe. Actuellement, on a une dizaine d'équipes REA. On a travaillé ces équipes selon le modèle Burzorg qui existe aux Pays-Bas.
Ok, donc il y a une inspiration.
C'est l'inspiration. C'est des équipes d'infirmiers dans un quartier qui travaillent ensemble et qui traitent toutes les questions.
Alors j'ai une question un petit peu bête là-dessus, mais comment vous faites face au fait que sur nos territoires, on manque de personnel de santé ? Parce que pour qu'il y ait un suivi d'une personne à domicile, je présume qu'un médecin doit être quand même dans les parages un spécialiste ou autre.
Non, on ne traite pas, c'est pas médicalisé.
D'accord,
on est dans le médico-social.
Là, on est vraiment en dehors.
Donc, on a un centre de soins infirmiers. On a du personnel aide-soignant, on a du personnel de service.
D'accord.
Voilà. Après, les familles, il y a le médecin de famille. Et là, on est dans le cas général où on fait face, comme partout ailleurs en France, à la pénurie des médecins sur les territoires.
D'accord. Donc, les REA, c'est quand même, on est d'accord, une petite révolution dans l'accompagnement des jeunes, ou des personnes, peu importe l'âge ou peu importe la situation, j'ai bien compris. D'autres actions auxquelles vous tenez à l'heure actuelle ?
Écoutez, on réfléchit, vous avez dit tout à l'heure, on réfléchit sur aussi l'EHPAD de demain.
D'accord.
Comment on peut concilier ce virage domiciliaire avec des structures qui sont nécessaires, parce que dans les EHPAD, nous avons une médicalisation par les médecins. L'EHPAD est coordonné par un médecin. Donc, c'est une réflexion que nous portons avec l'hôpital, centre hospitalier de Figeac. Vous voyez, on reste toujours avec les acteurs du territoire.
Tout à fait.
Donc on a espoir qu'on peut trouver vraiment de l'innovation dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que une entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, elle a besoin de créer.
Elle a besoin d'inventer et d'oser.
Une association, c'est pareil. Et si on ne fait pas de l'innovation sociale, on sera condamné à gérer avec des moyens qui baissent. Nous travaillons dans ce sens-là, essayer de voir avec nos faibles moyens de l'innovation sociale, que le territoire soit force de proposition et non pas subir les décisions qui nous viennent de plus haut, disant ça marche là, donc ça va marcher sur un territoire. Non, il faut tenir compte de la réalité du territoire, et les choses fonctionnent mieux lorsqu'on a cette démarche-là.
Et aussi de la réalité des situations qui se présentent à vous. J'ai été touchée par ce service que vous appelez PCPE, qui est en fait un pôle de compétences, je pense, pluridisciplinaire, qui réfléchit à des accompagnements très spécifiques, en tout cas à trouver des solutions très personnalisées à des personnes qui seraient sans solution, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. C'est, les PCPE, le sigle, l'acronyme, c'est Pôle de compétences et de prestations externalisées.
D'accord.
On en a, la PUA d'Arc dispose des trois qui existent dans le département. On a trois PCPE, dont un spécialisé sur les troubles du spectre autiste. L'objectif de ce dispositif et d'apporter une solution à des cas complexes qui nous sont d'ailleurs identifiés, pas forcément, nous on peut l'identifier, mais ils sont identifiés par d'autres acteurs du territoire, notamment la MDPH, puisque c'est sous prescription de la MDPH.
D'accord.
Et donc l'objectif de ce PCPE est de trouver une solution, impérativement, parce que derrière, il y a la personne concernée, mais il y a la famille. Et on ne parle pas assez souvent, et nous, on a une action, notre action de réflexion. Nous portons une grande réflexion sur l'accompagnement des aidants.
Oui, oui, c'est un sujet dont on parle un petit peu aussi.
Et peut-être que je viendrai vous exposer
Sur
plaisir. Votre antenne un jour notre réflexion sur ce sujet-là. Nous avons une maison d'accueil temporaire, la maison André-Chaussée, du docteur André-Chaussée. C'est l'une des 5 maisons d'accueil temporaire en France.
Il n'y en a pas plus.
Il n'y en a pas plus.
D'accord.
Et donc c'est une initiative locale qui permet à des familles, à des aidants de se dire je peux mettre la personne pendant une journée, une semaine, moi maximum c'est 3 mois sur une année pour pouvoir souffler un peu.
D'accord.
Et nous on prend en charge
la personne concernée. Passionnant tout ce que nous venons d'entendre, Monsieur Saadallah. Merci beaucoup. Pour conclure, j'ai envie de vous dire, vous êtes un véritable laboratoire d'innovation, cette association PEAI ADAR, avec certainement l'accompagnement de la personne qui est en préparation dans vos locaux. J'espère que vous aurez vraiment l'occasion de revenir nous voir sur les ondes de Radio Présence. Et puis, je présume que s'il y a des bénévoles qui se manifestent, vous ne direz pas non ?
Oui, avec grand plaisir, parce que c'est aussi notre action en termes de communication, c'est d'essayer. Une société où le bénévolat éprouve quelques difficultés à s'exprimer, et donc nous sommes à la recherche de volontaires, de bénévoles, au-delà des familles, même des familles, parce que les familles, je vous dis toujours, c'est important qu'elles sachent que nous sommes à leur écoute et que nous avons besoin aussi de leur disponibilité pour porter des actions comme celle que nous avons fait récemment, l'opération Brioche qui a été une première et qui est un succès et qu'on regardera si on ne va pas renouveler l'année prochaine.
Eh bien, c'est très bien. Donc, amis auditeurs de Radio Présence, si vous voulez apporter votre pierre, n'hésitez pas à contacter la PEAI ADAR. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci à vous.
Acteurs du développement. Venez à la rencontre des personnalités marquantes de votre département. Une émission qui vous a été présentée par Véronique Boularan.